Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public et quel formidable public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un Masque et la Plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les 120 battements de la critique. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest avec Jean-Marc Lalanne, des Inoccupables avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et avec Nicolas Chalère de L'Obs. On parle ce soir, vous l'avez compris, de 120 battements par minute, mais aussi des proies, de bonnes pommes, de petits paysans, de ciel rouge, de Gabriel et la montagne et du prix du succès. Dans le courrier de la semaine, Alice de Beaumarchais s'insurge, du verbe s'insurger, contre les louanges du Masque et la Plume pour une vie violente. Ça aurait pu être un film très intéressant, seulement voilà, il aurait fallu un talent de mise en scène qu'il n'y a pas plus ici que dans Apache, le précédent film de Thierry de Peretti. Même son de cloche, que tu le veuilles ou non, Xavier, de Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence. Je n'ai pas compris les louanges que vous avez adressées à une vie violente. J'ai trouvé ce film excessivement bavard. On ne comprend rien au tenant et aboutissant de l'histoire. On voit des hommes tués à bout portant d'autres hommes sans qu'on sache qui est qui. Un film reste donc à faire sur la genèse du nationalisme corse. À propos de Lola Pater, tiens, de Nadir Moknesh, Isabelle Chevreau de Toulouse est choquée de grâce sur un sujet comme celui de la transidentité. Faites un effort, ne parlez pas d'un transsexuel, sic, lorsqu'il s'agit d'une femme, on dit une trans et de préférence transgenre. Même colère de Adélie Faleff, le personnage joué par Fanny Ardant, n'a rien d'un transsexuel, c'est une femme transgenre. Vous pourriez d'ailleurs reconnaître l'impasse professionnelle dans laquelle se trouvent les comédiens et comédiennes trans et leur invisibilisation à l'écran. Un tout jeune auditeur, Nathan Aznar, j'adore, qui a 14 ans, remercie Xavier Le Herpeur d'avoir défendu Valérian de Luc Besson. Tu te souviens?
Ah oui.
D'avoir à ce micro défendu Valérian de Luc Besson.
Et j'assume complètement, encore aujourd'hui.
Les époustouflants effets spéciaux, dit Nathan, et les exceptionnelles créations visuelles résultent d'un travail remarquable. Et je ne peux m'empêcher d'éclater de rire en entendant Sophie Avon craché sur l'univers créé par Luc Besson. À bon entendeur, trois petits points. C'est presque une menace de Nathan. Hein.
Oui, je suis très effrayée.
Fais gaffe, Sophie.
Oui, je vais faire attention.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Adrien Bruno me reproche d'avoir mis au programme du dernier Masque Cinéma trois films, Egon Schiele, Lumière d'été et Une femme douce. Ça m'a donné respectivement des envies de Maladie mortelle, de Bombardement. Et de rien du tout pour Une femme douce, vu que je n'ai pas tenu plus de trois quarts d'heure. Et tout ça pour que tu les déchires. Là, franchement, mon masque, tu m'inquiètes. Pour terminer, c'est Séverine Unter qui souhaite la bienvenue à Nicolas Chalère, nouveau masqué et emplumé. Mais, et lors de cette émission cinéma, il a dit deux fois un espèce de, sans jamais être repris par Jérôme, ni sur la faute de genre, ni sur la laideur de cette expression. Donc, je voudrais bien une espèce d'excuse, Nicolas.
Eh bien, écoutez, j'en suis désolé, mais comme on ne se connaît pas très bien, c'est que je suis quelqu'un de très progressif et que je me refuse à cantonner toute espèce à un genre particulier. Donc, si vous me le permettez, je me permettrai d'accorder le terme à, selon mon humeur, hermaphrodite.
Ça sent la préparation, ça.
Non, pas du tout.
Ça sent la préparation. Bon, allez, on commence donc, Sophie, avec les proies. Prix de la mise en scène à Cannes. Et de la mise en scène à Cannes.
Il y a des choses qui me font rire.
Oui, moi aussi. C'est d'après le roman de Thomas Cullinan, le remake par Sofia Coppola du film de Don Siegel, qui date, je te le rappelle, de 1971, avec Clint Eastwood dans le rôle de ce soldat nordiste qui débarque blessé pendant la guerre de sécession dans un pensionnat de jeunes filles au sud, bien sûr, rôle que Sofia Coppola a confié à Colin Farrell, les belles étant jouées notamment sous l'autorité de la directrice Nicole Kidman, par Kirsten Dunst et par Elle Fanning, tout ce petit gynécée dans un décor assez Laura Ashley, froufroute, roucoule, soupire, rigole sous la crinoline et surtout complote, car évidemment le loup n'est pas celui qu'on croit. J'aurais souhaitait du brûlant, quelque chose d'un peu, oui, d'un peu fort. Et c'est tiède, c'est joli, hein, c'est chic, c'est vaporeux, mais c'est tiède.
Eh bien, justement.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Jérôme. Je te remercie de me donner la parole en premier. Je me sens un peu seule ce soir. Je ne sais pas pourquoi.
Détrompe-toi.
Ah, merci Jean-Marc. Non, mais évidemment que c'est un film qui est lisse en apparence, très joli, et pour cause. Il est d'autant plus joli qu'il s'agit de montrer derrière une sorte de monstruosité de ces femmes-là. Plus c'est travaillé dans la joliesse, plus c'est pour montrer la monstruosité. Alors, c'est le principe du conte de fées. Hein. D'ailleurs, ça commence comme un conte de fées. C'est une petite fille qui va cueillir des champignons avec son petit panier, ses tresses, dans une forêt féerique. Mais sauf que derrière la féerie, derrière ce travail du cadre, derrière ce côté hamiltonien, derrière cette lumière extrêmement travaillée, eh bien, il y a non seulement la barbarie de ces femmes qui va se déployer, mais il y a surtout le grand sujet de Sofia Coppola, qui n'est pas du tout ce qu'on croit à première vue, mais qui est l'absence, l'impossibilité d'être au monde. C'est vraiment un film sur l'impossibilité d'être au monde. C'est quand même l'histoire de femmes.
Mais juste une chose, parce que certains n'ont pas vu le Siegel, ni
oui,
alors, encore vu les proies.
Mais tu as raconté légèrement.
Non, mais
elles accueillent
moi, j'ai
cet
pas
homme.
Parlé de barbarie, tu vois. Donc,
non, j'en n'en dis pas voilà. Trop. Je veux juste te dire que plus. Forcément, c'est tellement joli.
J'ai beau
parce que derrière, il y a un peu de cruauté.
Trop.
Il y a de la cruauté derrière. Bon, je dis juste que c'est encore une fois, c'est un film sur l'ennui au fond, tout simplement, comme toujours chez Sofia Coppola. Non, mais des personnages. C'est quand même l'histoire de femmes qui se débarrassent de leur désir parce qu'il leur fait peur. C'est ça l'histoire du film. Et le personnage de Kirsten Dunst, il est pour moi symptomatique de cette extrême mélancolie qui baigne le film. C'est un personnage qui est quand même très très étonnant parce que c'est un personnage qui dit d'ailleurs explicitement sa détresse. Après, il y a beaucoup d'humour aussi dans le film. Il ne faut pas croire non plus que c'est un film neurasthénique. C'est un film où il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour. Mais il y a toujours sous-jacent cette absence au monde qui est quand même très incarnée par Kirsten Dunst. Et je trouve avec un personnage qui est complètement dingue parce que c'est elle qui va, je dis rien, je dis juste, c'est elle qui va le plus loin, disons, dans l'illusion de l'amour, dans le don amoureux. Mais à la fin, elle ne moufte pas.
Mais tout ça, c'est.
À la fin, tout le monde.
Tout ça, c'est de la théorie, hein.
Non, c'est pas de la théorie.
C'est
parce que cette image finale, et je ne donne pas la fin, mais cette image finale où on les voit toutes rentrer dans le rang, derrière la grille, ces proies qui sont devenues des prédatrices et qui redeviennent, des proies. J'en dis pas beaucoup quand même, il faut bien en parler un peu
oui,
du
mais
film.
Le problème, c'est que tout ça est très lisible. Et
on Nicolas et Chalère.
On le voit, on le comprend assez vite.
Prends la parole, parce que je te l'ai donné, vas-y.
Non, mais on le comprend assez vite, on le comprend d'autant mieux qu'on a vu les précédents films de Coppola, qu'effectivement, elle traite toujours du même sujet. Sauf que là, elle le traite dans un contexte, on va dire, beaucoup plus narratif. Et il y a. Et je trouve que Coppola, elle arrive au bout. Son cinéma, c'est une sorte de petit jardin secret qu'elle entretient comme ça. Et de film en film, je trouve qu'elle finit par arriver au bout. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose.
Mais il y a son jardin secret, c'est magnifique.
Mais son jardin secret, il n'est plus très secret. C'est-à-dire qu'on voit tout est. Et surtout, il y a une maladresse, je trouve, d'écriture, notamment le personnage de Colin Farrell, quand même. Très très mal écrit, qu'il a des réactions
mais
assez incohérentes.
Parce que c'est une métaphore dans le film. C'est un film du côté des femmes. C'est-à-dire le film de Don Siegel, lui le personnage principal. Là, ce sont les femmes les personnages principaux. Et c'est ça qui est du côté des femmes. Mais en même temps, c'est une grande cruauté sur les femmes.
Don Siegel, tous les personnages étaient traités presque à
égale. Oui, mais enfin, c'était quand même Clint Eastwood sur l'affiche, on voyait que lui.
C'est beaucoup plus sulfureux, surtout. Alors après que Coppola ait voulu le réinterpréter à sa manière, c'est pas un problème.
C'est l'impossibilité.
Mais là, vraiment, le film, c'est quand même vraiment pas grand-chose. On a l'impression. À un moment, il y a un personnage qui dit, il y a Colin Farrell qui demande assez ironiquement assez c'est jolière d'ailleurs est-ce que
quoi oh bah on peut lui dire quand même ça parce que sinon on dit rien c'est dès le début ça quand même
oui et il leur dit quand est-ce que vous allez arrêter de jouer à la poupée et vraiment c'est un sentiment que je me demande si Coppola n'est pas conscient elle-même du fait qu'elle est un peu arrivée au bout de quelque chose et que ce côté je joue à la poupée il finit par être un peu
mais tu as Paris
un peu très limité,
Paris
quoi.
Le film est très drôle
il y a des
même.
Moments très drôles mais ça c'est, non il pas très drôle il y a des points d'ironie
la petite Elifanie qui flirte avec le
oui mais qui flirte avec le grotesque et qui paraissent presque
Si elle avait mis, par exemple, comme dans Marie-Antoinette, des converses, par exemple, tu vois, ces jeunes
mais
filles.
Mais ça, c'est pas drôle, Jérôme.
Non, bon, puis
en revanche, son petit clin d'œil, il est drôle.
Surtout, c'est qu'au bout d'un moment, de dire
c'est
que
c'est pas drôle, Jérôme.
De dire que c'est une cinéaste de l'ennui, elle finit par faire des films en lui aussi, quoi.
Le problème, c'est que Sofia Coppola se dit, je vais faire un film, un remake, je vais, alors, à chaque fois, me défausser, c'est-à-dire, non, j'ai pas voulu faire un remake du film, j'ai voulu réadapter le bouquin. En même temps, elle a sacrifié les personnages noirs pour rester, paraît-il, sur la thématique du genre entre les hommes et les femmes. Mais quand on voit à l'écran, alors elle se dit, tous les gens vont projeter mes précédents films sur celui-ci. Bon, d'abord, je suis comme Nicolas, on en a marre de projeter parce qu'on arrive toujours un peu au même résultat et qu'elle a pas grand-chose, finalement, à dire, à part, effectivement, que les hommes ne sont pas comme les femmes et que les femmes ne sont pas comme les hommes. Merci,
on s'en était aperçu.
Elle prend des personnages personnages féminins, un gynécée, c'est extrêmement intéressant.
C'est des femmes qui ont peur de leurs désirs.
Mais elles sont toutes traitées de la même manière, Sophie. Ça méritait un peu nuance si tu prends six personnages pour les traiter sur, d'une façon totalement unique.
Il y en a trois qui sont extrêmement singularisés. Après, il y en a trois autres, effectivement, qui font un peu des éléments de décor.
Mais en termes de désir,
dès
qu'elle voit arriver Colin Farrell avec sa petite barbe de trois jours, on se demande d'ailleurs comment il la travaille pendant la guerre, elles sont toutes en train de roucouler, elles ont toutes les hormones en feu.
C'est drôle, c'est magnifique.
Il y a un ou deux sujets. Il y a un ou deux sujets un peu sulfureux qui est, en revanche, la découverte de la sexualité chez les petites filles de 8, 10, 12 ans, et ça, elle ne le traite pas du tout, elle l'écarte. On a un casting L'Oréal, on a l'impression quand même d'un dossier de Vogue, oser la mode sudiste. On se demande à quel moment elle repasse, à quel moment elle lave ses linges, qui sont extrêmement propres. Il y a un moment, il faut un peu aussi, je veux bien que ce soit une métaphore, je veux bien que ce soit un conte de fées, Sophie. J'adorerais voir le film que tu as vu, mais il y a un moment, il y a un souci de réalité.
On
est dans le sud, on est pendant la guerre, il n'y a aucune tension ni érotique, ni même le danger que représente la guerre qui est à l'envie et qui devrait être là parce qu'il y a un problème de mise en scène. La mise en scène explicite tout, il n'y a aucune ellipse, il n'y a aucun hors-champ, tout est à l'écran, tout est très bien découpé. Quand elle va, quand Nicole Kidman va à la grille pour discuter avec un soldat sudiste auprès duquel elle pourrait dénoncer Colin Farrell, on entend ce qui se dit, contre-champ sur les filles qui sont à la fenêtre, qui commentent ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de voir. Mais à quel moment le mystère, à quel moment l'ellipse, à quel moment... Mais voilà. Et tout le film est ultra découpé et ultra manichéen.
Jean-Marc, je te donne la parole. Il est extrêmement bien filmé. Tu peux pas dire du tout que, enfin, il est extrêmement bien découpé. Il y a une lisibilité de la mise en scène qui est très forte. Mais c'est une mise en scène classique d'un raffinement vraiment parfois assez inouï. Et par ailleurs, on peut dire qu'elle fait toujours le même film, mais en même temps, elle approfondit toujours ce qu'elle a à dire. Et d'une certaine manière, le film dialogue vraiment de façon passionnante avec Virgin Suicides. Tout son cinéma, c'est vraiment un trajet vers la violence. C'est d'une violence que les Virgin Suicides retourner contre elles, et que là, elles apprennent à retourner contre le monde et contre ce qui est ce qui leur fait subir la violence, à savoir la figure masculine.
Donc t'es d'accord avec nous, elle fait du surplace.
Pas du tout. Mais faut qu'elle a inversé le point d'où elle est partie. Justement, elle est partie d'une violence retournée contre soi à une violence infligée aux autres. Donc au contraire, je pense qu'il y a un approfondissement de son sujet, et elle est allée d'un point A à un point B. Et par ailleurs, moi, ce pourquoi on pourrait dire qu'il y a du surplace, c'est effectivement qu'elle n'a pas tellement avancé dans cette espèce de phobie du corps humain qu'elle a, de peur du désir, mais la manière dont elle déporte depuis le début sur la décoration, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'il y a un embrasement. Le désir s'immisce dans des rideaux et des tapisseries chez Sofia Coppola.
Comme chez Minelli.
C'est-à-dire que c'est vraiment une très grande cinéaste du décor.
Mais quand on veut se confronter à la violence, on ne l'évite pas à ce point-là. C'est-à-dire que le vrai problème aussi du film, c'est que dès qu'il y a une péripétie, quelque chose qui se passe d'un peu violent et d'un peu dérangeant, elle l'évite de manière assez maladroite. Et là, justement, la mise en scène n'est plus du tout aussi maîtrisée.
Très violent qui se produit dans le film.
Non.
Mais à force d'effleurer les choses, j'ai l'impression qu'elle touche plus. Qu'elle n'arrive plus à toucher grand-chose de son cinéma.
C'est elliptique, mais c'est assez impressionnant. Moi, je trouve le film est extrêmement anxiogène et que le côté
anxiogène.
Le film est très sombre et très anxiogène.
Si vraiment vous pensez qu'il est anxiogène et très drôle,
les deux.
Le droit de m'écrire. Vous avez le droit de m'écrire. Il faut quand même prévenir les spectateurs. D'en parler sérieusement. Les proies, c'est de Sofia Coppola. Des réactions peut-être dans le studio sur ce film. Bonsoir, monsieur.
Oui, très rapidement, évidemment, c'est un remake. On pense à Don Siegel. Il est vu sous un autre angle. Sur le plan de la violence sous-jacente, la présence des soldats sudistes n'est pas neutre. Elles ont aussi peur des soldats sudistes que de soldats nordistes. Et puis, malgré tout, on pense quand même à d'autres grands films. Au moins, il aura le mérite de nous renvoyer, par exemple, à Autant en emporte le vent, la scène du soldat que Scarlett neutralise avec ses deux sœurs, la scène de la foire de charité d'Atlanta où Scarlett danse, alors qu'elle a tout le haut de son personnage est immobile, elle danse. Donc on retrouve ce désir dont vous parliez à l'instant, dont parlait Sophie. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a fait penser à Gang of New York. Il le dit, Colin Farrell, c'est un nordiste du 66e d'infanterie de New York. Et c'est les immigrants irlandais. Et souvenez-vous, dans Gang of New York, les immigrants qui arrivent notamment d'Irlande sont embrigadés, sont enrégimentés dans ce régiment, le 66e d'infanterie. Et en plus, il avait besoin d'argent, et pour $300, il a remplacé, vous savez qu'on remplaçait, le service militaire n'était pas obligatoire, il a remplacé quelqu'un d'autre parce qu'il avait besoin d'argent, et en fait, il a peur de la guerre. La violence, elle est partout. Par ailleurs, le film est très très bien filmé sur le plan de la couleur et à voir quand même. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas à négliger.
Merci pour votre intervention. L'autre film consacrée à Cannes, qui a d'ailleurs frôlé, on peut le dire, la Palme d'Or. C'est 120 battements par minute de Robin Campillo, auteur d'Eastern Boys, qui est un très bon film, et scénariste de Laurent Cantet, qui a reçu donc ce film, le Grand Prix du jury, présidé par Pedro Almodovar pendant 2h20, avec une distribution qui compte notamment le jeune Argentin Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel et Antoine Reinhardt. Ce Campillo raconte au début des années 90 la naissance et les combats de l'association de lutte contre le sida, ACT UP, un film qui, pour l'essentiel, se déroule, pour moi ce sont les scènes peut-être les plus fortes de ce film, dans l'amphi où ont lieu les réunions hebdomadaires, très agitées, très démocratiques aussi, des militants d'ailleurs des deux sexes, il faut quand même le rappeler. Et quand le film sort de cet amphi, c'est pour de véritables opérations commando, appelées des ZAP, contre les labos pharmaceutiques bombardés de poches de faux sang, ou pour des manifs au slogan provoquant des molécules pour qu'on s'encule, et pour des distributions de préservatifs, et enfin pour des histoires individuelles d'amour. Et vous l'avez compris, de mort, la principale étant celle de Sean, qui est séropositif, c'est Pérez Biscayart, et Nathan, qui est séronégatif, jamais l'expression, dont en général, d'ailleurs, je ne raffole pas de film choral, n'est mieux appropriée que pour ce film de groupe où Paris est traversé par une scène rouge sang. Je vous indiquerai d'ailleurs à la fin un livre qui est important, à mon avis, si on veut, quand on sort de ce film, pour mieux savoir ce qu'a été cette période et surtout ce mouvement ACT UP. Xavier.
Je me suis exprimé au moment du Masque et la Plume à Cannes. Donc,
absolument.
J'ai revu le film parce que c'est vrai que lors de sa présentation au festival, j'avais les larmes aux yeux, je voyais plein de fantômes, plein de copains.
Tu n'étais pas le seul. Hein.
Non, mais je n'étais pas le seul. Mais en plus, c'était compliqué parce que c'est une période que j'ai traversée. Je n'ai pas été ACT UP. Mais voilà, il y avait énormément d'implications personnelles. Donc j'ai voulu revoir le film. Pour moi, c'est vraiment un grand film et je suis d'accord avec toi. Je pense que les plus belles scènes, mais parce qu'elles sont contrebalancées aussi par du romanesque, que par des scènes à la fois de liesse, de défilés, de gay pride, mais aussi d'attaque de laboratoire. Ce sont les scènes d'Agora, ce sont les scènes où on débat, les scènes où on s'engueule, parce que se décident les personnages aussi dans la manière d'empoigner la maladie, de vivre avec, que ce soit les séropositifs, les séronégatifs, la mère d'un jeune adolescent,
oui,
qui a été contaminé, qui est bouleversant et qui apporte de l'humour, puisqu'il nous explique comment il fait des poches de faux sang dans la baignoire et que la mère déplore ne pas pouvoir prendre de douche depuis 15 jours. Donc voilà, c'est des éléments très concrets et au milieu de ça, effectivement, il y a des défilés, il y a des amours. Les amours sont vraiment filmés physiquement dans le temps qui manque, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Il faut s'aimer, il faut jouir, il faut coucher. Et Campillo.
Et jusqu'au dernier moment.
Et jusqu'au dernier moment,
il y a une scène
qui est magnifique, magistrale, absolument, et qui est filmée avec une délicatesse et en même temps une pugnacité. Et tout le film est là, à mon avis, dans ce mélange à la fois de précaution, puis en même temps, on n'a pas le temps, il faut y aller. C'est un film qui pourrait nous culpabiliser. Nous n'avons rien fait, vous n'avez rien fait, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est un film qui parle du présent parce qu'il faut encore continuer d'aimer. Continuer de se battre, les personnages sont bouleversants et il y a des audaces. Il y a une scène où ils sont en boîte de nuit magnifique, où la poussière devient le virus à l'attaque. Il fallait oser cela.
Oui, les 120 battements, il faut le rappeler, c'est la musique. Hein.
C'est la musique, absolument. Et voilà, moi, c'est une fresque que j'ai revue et que j'aime profondément et qui est remarquablement mise en scène.
Et puis ces scènes dont on parlait des amphis, c'est une chose que j'avais jamais vue au cinéma parce qu'on a presque le sentiment que c'est improvisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de texte. Or, on sait que c'est pas la réalité, mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression d'être dans cet amphi et d'écouter des interventions totalement improvisées. Jean-Marc.
Oui, le film est vraiment incroyablement vivant et incarné. Et c'est ce qui est assez prodigieux, c'est que c'est vraiment un film sur des idées, sur la parole. Et c'est une idée géniale d'avoir construit le film entièrement autour des âgés. C'est vraiment la parole de ces débats publics qui produit le reste du film. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit une action, pendant tout le début du film, on voit les propos des gens qui sont en train de la prévoir, qui envoie, enfin accompagne l'action, et ensuite on assiste à son débriefing. Donc vraiment, le sujet du film, c'est le verbe. Et en même temps que c'est un grand film sur la parole qui produit de l'action, c'est aussi un film incroyable sur le corps. C'est un des films les plus incarnés, les plus vivants qu'on puisse voir, sur un corps qui est à la fois un corps affaibli, un corps malade, et en même temps un corps héroïsé, un corps en lutte, un corps qui veut absolument jouir, et qui parvient. Et donc la façon de tenir les deux, à la fois le verbe et le corps, c'est vraiment prodigieux dans le film, tout comme la façon dont il tient... quelque chose de l'ordre de l'épopée, c'est-à-dire que c'est vraiment des héros, et Romain Campillo, qui a été ACT UP, est totalement solidaire, et pense que ACT UP est un phénomène politique et culturel majeur de ces 20 dernières années, et en même temps, il instille plein de petites touches de cocasserie, c'est-à-dire qu'il y a des apps qui sont ratées, il y a plein de choses amusantes, c'est un peu les pieds nickelés font de la politique par moment, et la manière dont il réussit à rendre drôle, même la scène, il y a une scène de mort dans le film, il y a la manière dont elle est prise à revers aussi par des choses de comédie, notamment une blague sur les Cendres du mort qui est incroyable, d'audace à ce moment-là. Le film est vraiment prodigieux et vraiment il produit une décharge. C'est vraiment une déflagration d'émotions assez inouïe.
Et qui rappelle aussi historiquement à quel point ils n'ont pas été entendus, quoi. C'est-à-dire ce qui est fou, c'est ce mur du silence ou des intérêts. Évidemment privé, notamment pharmaceutique, mais c'est fou cette mort qui est là partout et ce silence de mort qui les entoure. Sophie,
comment fendre l'indifférence des autres dans cette douleur qu'ils vivent? Oui, c'est un film. Bon, bah, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un film à la fois très juste et très. Ça aurait pu être un grand film lyrique. C'est pas ça. C'est un film beaucoup plus. En effet, Jean-Marc l'a dit. C'est un film vivant. C'est un film gorgé de vie. C'est un film sur la joie de vivre, sur la libération de la parole, bien sûr. C'est un film plein de vacarme, de brouhaha. Et ce qui est génial, c'est qu'il arrive à filmer dans un mouvement contradictoire en même temps, à la fois la joie de vivre, la colère et la sidération. Et je trouve c'est très beau la mise en scène qui ça va vite, on est dans le mouvement en permanence et puis tout à coup.
Oui, c'est 2h20, on ne les sent même pas passer.
Oui, parce que ça va très vite, mais en même temps il y a des suspensions. À un moment donné, enfin il y a des ralentis, il y a des moments où tout à coup on est presque dans un rêve, on a l'impression que tout ça va vers quelque chose de très poétique et de très suspendu. Et ça c'est très beau, de même qu'il y a un mouvement permanent entre le collectif. Moi je trouve pas que ce soit tellement un film choral, mais ça va du collectif à l'intime. Et du documentaire.
Mais quand je disais chorale, c'était aussi parce que même tu
vois. Oui, parce qu'il y a plein de personnages
très forts.
Même
une comédienne comme Adèle Haenel, elle devient.
Oui, c'est vrai.
Un personnage
on la retient.
Comme les autres.
Mais
je veux dire, au contraire, elle n'est plus la comédienne qu'on connaît.
Oui, tu as raison.
Elle se mêle à ce groupe de manière quasiment naturelle.
C'est vrai, mais en même temps, il y a quand même un mouvement du collectif vers l'intime.
C'est le dernier mouvement du film où tout à coup, quelque chose se dégage.
Voilà, et du documentaire vers la fiction. Pour lui, pour Campillo, l'intime, c'est de la fiction. Et du coup, le film, il pourrait se rétrécir. Au contraire, il prend une espèce d'ampleur, de dimension universelle qui rajoute à l'émotion, qui rajoute à la beauté. Oui, c'est très beau.
Ce qui est fou, c'est ça.
Nicolas.
Ce qui est fou, c'est ce qu'il ose. Effectivement, on dit que ça passe du collectif à l'individuel,
ouais,
que ça passe du corps malade au corps social. Ça... Mais la progression du film est assez incroyable parce que ça commence de manière presque documentaire. Effectivement, il y a même un didactisme au début quand il y a un personnage, un ancien d'ACT UP qui accueille les nouveaux arrivants. Il leur explique ce qu'est ACT UP. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire. Il donne toutes les infos dont on va avoir besoin après. Et c'est passionnant comment le film passe effectivement d'une forme presque documentaire, comment il imbrique tout ça en passant effectivement des RH aux apps à cette histoire d'amour naissante, et comment progressivement il nous amène vers une 20 dernières minutes qu'il faut quand même, il y a 5 dernières minutes qu'on va pas raconter, mais les 20 d'avant, c'est une espèce de sidération quand tu disais sur quelqu'un qui est en train de mourir. Et moi j'avais rarement vu une scène de mort, on va pas dire quel personnage, et même un corps inerte qui est là dans la pièce alors que tout le monde s'agite autour et qu'il y a de la vie, filmé comme ça. Il y a vraiment, c'est pour ça quand on dit qu'il y a ça manque de cinéma, on dirait un reportage. Non, il y a une vision de cinéma et une audace de cinéma dans le film qui va au-delà, de juste une image parfois un peu naturaliste. Il ose, je trouve, mélanger des tonalités, des types de cinéma. Parfois, on s'approche même du cinéma de genre quand il filme effectivement ces parenthèses nightclubbing où tout le monde danse. D'ailleurs, encore une fois, je ne dirais pas quelle est la dernière image, mais je la trouve magnifique d'un point de vue métaphorique. Et voilà, je trouve n'ayant pas connu de près cette époque-là, et en tout cas j'étais un petit peu trop jeune, j'ai appris des choses tout en me sentant j'ai appris beaucoup de choses en même temps,
c'est vrai que par rapport au très vieux que vous êtes, tout d'un coup Nicolas a vraiment le sentiment de découvrir.
Non, je me suis éveillé à la sexualité très tard. Voilà, c'est pour ça.
J'ai pensé que le masque était une émission, les critiques disaient la vérité.
J'ai même l'impression qu'on me donnait une leçon, et je trouve qu'il y a une énergie politique dans ce film qui aujourd'hui est très salutaire.
Justement, pour des gens comme Nicolas, je conseille la réédition chez De Noël de ACT UP, une histoire qui est celle du cofondateur de l'association, Didier Lestrade. C'est d'ailleurs Antoine Reinertz qui joue le personnage dans le film, et qui est en plus enrichi d'une préface tout à fait inédite et très forte. Donc si vous voulez en savoir plus sur ACT UP et son histoire, lisez le livre chez De Noël de Didier Lestrade. De très grand film, 120 battements par minute de Robin Campillo. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Petit paysan, l'étonnant premier film d'Hubert Charuel, 32 ans, qui est passé directement de la ferme à la Fémis, avec Swann Harlow, formidable dans le rôle-titre, Sarah Giraudot, Bouly Lanners, Isabelle Candelier, un film qu'il a d'ailleurs tourné dans l'exploitation de ses parents, en Haute-Marne, entre Reims et Nancy, où nous serons la semaine prochaine, pas dans la ferme, mais à Nancy. C'est l'histoire d'un jeune homme, Pierre, qui élève seul une trentaine de vaches laitières,
qui a repris la ferme de ses parents, parents qui vivent d'ailleurs toujours sur l'exploitation et qui observent leur fils travailler dur, 7 jours sur 7, pour un salaire dérisoire. Alors quand une maladie tout à fait mystérieuse, qui n'est pas la vache folle, je le précise, mais une fièvre hémorragique dont certains symptômes se transmettent à l'homme, puisqu'on le voit se gratter au fur et à mesure et avoir le dos très rouge, quand cette maladie commence à frapper son troupeau, Pierre devient totalement fou, il n'écoute plus personne, même pas sa sœur vétérinaire, qui est jouée très bien par Sarah Giraudeau. Et il fait des choses qu'on va peut-être pas raconter, il faut laisser un peu de mystère, pour cacher les vaches malades aux inspecteurs, dont évidemment on connaît le principe qui est d'exterminer les cheptels contaminés. Alors c'est un film qui a toute l'apparence, là tu parlais Nicolas, de documentaire, on pourrait presque croire un documentaire, en tout cas un film naturaliste, mais avec des moments totalement fantastiques qui font basculer le film, je trouve, dans ce qui est presque un thriller mental, Sophie.
Oui, tu dis l'essentiel, parce que ce premier film...
Mais comme souvent, d'ailleurs, t'as remarqué cette chose.
Non, mais c'est gentil de nous inviter, oui. Merci beaucoup.
Je ne ferai plus de compliments, parce que c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un premier film, en plus autobiographique, et donc il y a quand même pas mal d'écueils...
Enfin, autobiographique, pas sur la maladie.
Non, mais
maladie,
il connaît bien... Oui, enfin, son père joue dans le film, son grand-père aussi, on sent que
mais le grand-père joue le voisin.
Oui, absolument, on sent que vraiment il est dans son élément. Et ce qui est génial, c'est qu'il tombe dans aucun écueil de l'autobiographie. Alors, en effet, comme tu l'as dit, ce qui est très beau, c'est qu'il connaît très bien la Terre, il sait très bien ce que c'est, donc il n'y a aucune faute de très juste. Et à côté de ça, il a des idées d'une grande invention. Quand tu parles du dos qui se gratte, moi j'y ai vu plutôt quelque chose encore de fantastique, c'est-à-dire qu'il vit tellement en fusion avec ses bêtes qu'il en a les symptômes. Ouais. C'est même pas que la maladie se transmet à l'homme, c'est qu'il en a les symptômes, et c'est presque, c'est métaphorique et c'est presque fantastique ça aussi comme idée. Ça a l'air de rien, mais c'est une très belle idée, parce qu'il en fait un personnage très fictionnel pour le coup, le jeune Swan Arlo.
Ou ce plan dès le début du veau allongé sur son canapé.
Ah ou ça, bien
cuir.
Sûr. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que on sent que la Terre, elle a envie d'être filmée. Hein. On sent que c'est un monde, le monde paysan est un monde qui a envie... Alors, il a été filmé sous forme de documentaire, il y a Farbik, Diopardon, tout ça, mais ces dernières années, il y a eu plein de films où, alors c'était pas le cœur du film, c'était pas les problèmes agricoles qui étaient le cœur des films, mais il y a eu même singulièrement des comédies qui se déroulaient sur des exploitations familiales, je pense ne serait-ce qu'à la famille Bélier, par exemple, ou à la Ritournelle, ça se passait avec les vaches, etc. Et là, tout à coup, il donne... ces lettres de noblesse à quelque chose qui pourrait presque être un nouveau genre, le film paysan, quoi. Et c'est fort, quoi, de faire ça, parce qu'il y a à la fois l'âpreté du milieu, sa dureté, et en même temps, la poésie, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un film très beau.
Très captivant. Avec un aspect moderne, puisqu'évidemment, il travaille beaucoup sur Internet, ce qui nourrit ses fantasmes.
Oui,
aussi.
C'est pas ce que je préfère dans le film. C'est un peu plus artificiel.
Enfin, on va pas trop en raconter,
mais Jean-Marc. Enfin, c'est beau.
Je trouve que le film s'inscrit dans un genre qui est un peu balisé. Qui serait un peu le film social à suspense et qui aurait pu être modélisé par les Dardenne il y a 20 ans, où il y a à la fois un très très grand réalisme, un conflit moral et un effet d'engrenage avec un personnage qui essaie de remonter le courant et qui est dans un déni, une forclusion, qui fait que tout va s'acharner contre lui et qu'il essaie lui de remonter le courant. Je trouve que la fin du film, elle a quelque chose d'un peu prévisible. Mais dans ce cadre-là, le film est très réussi, à la fois parce que c'est extrêmement...
Prévisible, tu trouves vraiment que c'est prévisible ?
Moi, j'ai l'impression que dans son tempo, dans son dessin, dans son design quasiment, il y a quelque chose qui ressemble à un jeune film d'auteur français, post-dardénien. Je m'apprête à dire du bien du film.
Non, j'aimerais en termes de force, ça n'a rien à voir avec les Dardennes, justement.
Arrête, c'est beaucoup moins fiévreux, beaucoup moins... Il y a une dimension mystique. Pour le coup, qu'il n'y a pas là. Mais le film, à mon avis, réussit sur deux versants. D'un côté, le côté extrêmement documenté, vériste, qui est très très bien fait, qui est servi par Swan Arlo, que je trouve absolument remarquable, qu'on avait déjà trouvé très bien dans des seconds rôles, et là, qui porte le film, qui a une sécheresse, une nervosité. Il donne vraiment son input, son rythme au film, et c'est vraiment assez fort. Input ? J'ai tenté un anglicisme. Je pense qu'il y aura toujours un auditeur pour me le reprocher. Et par ailleurs, le truc fort vraiment de cinéma dans le film, pour moi, c'est les plans sur les vaches. Je trouve que le film réussit très
bien
à montrer comment c'est hétérogène le cœur d'une vache. Il filme souvent par fragments. Et alors qu'on dit souvent que le regard d'une vache c'est vide, c'est pas du tout le cas en fait. Il filme cette taille totalement affolée de la vache. Il y a vraiment des plans magnifiques sur la complexité, le côté noueux du corps d'une vache, où il y a vraiment des moments très forts de cinéma là-dessus.
Et sur ce genre de petits détails justement.
C'est drôle, j'allais te donner la parole. C'est marrant, j'allais lui donner la parole. Nicolas Chalère.
C'est marrant parce que c'est justement sur ce genre de petits détails très réalistes, un plan d'œil, qu'il arrive à créer par petites touches une dimension presque fantastique, ou alors un plan de nuit d'un tracteur, juste l'éclairage, et en deux plans, il arrive à amener une dimension fantastique à un film qui, en l'occurrence, est quand même assez très proche d'un réalisme. Et c'est ça aussi qui le rend intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une vision, effectivement, on a toujours une vision assez cliché du paysan. Là, on a un paysan qui n'a jamais le temps de rien, qui va sur
ça,
Internet.
On le sait,
mais il arrive à en faire une matière de cinéma. Il arrive à en faire une matière, je trouve, fictionnelle, assez passionnante. Et surtout, je trouve les acteurs aussi sont. Enfin, on disait Swan Arlo. Il y a cette idée de mélanger à la fois sa famille qui joue des petits rôles, son grand-père qui a eu trois apparitions.
Mais Boulay-Lanière, c'est formidable aussi en Belgique.
Effectivement, oui,
qui a un rôle important d'une certaine manière.
Qu'il faut pas révéler, non, voilà. mais Isabelle Candelé qui joue sa mère et qui apporte comme ça des touches assez vraiment comiques. Et il y a
les vaches jouent très très bien.
Non, et puis il y a aussi l'idée d'un c'est une forme de western de western du terroir, quoi. Il y a quelque chose comme ça de
en même temps, fais gaffe parce que si les gens ils vont pas
à
l'envoi du Ford, ils vont être un peu
non mais bien sûr, mais et donc non, je trouve pour un premier film français, je trouve ça assez remarquable et très tenu.
Oui, pour
et
c'est captivant vraiment, en plus. Hein,
c'est vraiment Xavier. Captivant, quoi. Il arrive.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un film qui aurait pu être pauvre petit paysan courage. Il vient de là, il sait la difficulté. Je ne trouve pas le film prévisible, même si je crois comprendre ce que Jean-Marc a voulu dire. Le film est circonscrit obligatoirement, puisqu'une tragédie est en train de se mettre en place et qu'elle est inéluctable, on le sait par les informations. Ce qui est très beau, effectivement, c'est qu'il a évité la vache folle pour aller vers la fièvre hémorragique. Mmh. Et ça donne effectivement quelque chose de fantastique, parce que ces bêtes qui suintent le sang et qui sont remarquablement cadrées et filmées comme ça, juste un peu là sur lequel du sang est en train de couler, et ce désespoir qui est en lui, et en même temps le film est très souvent sur le terrain de la comédie, il ose la comédie à travers le personnage d'Isabelle Candulé qui tue le maire, qui ne cesse de le scruter absolument et de le surveiller. Donc c'est un film qui respire vraiment tout le temps la vie dans son concret, la vie dans son humour, la vie dans la nécessaire dérision, et en même temps ce personnage là il a aucun dialogue, aucun monologue pour nous dire combien il est désespéré. On le voit à travers ses gestes, on le voit à travers son quotidien,
la scène au bowling par exemple, elle est terrible.
Terrible. Il va chercher donc dans des choses afférentes la manière dont la tragédie va s'inscrire dans cette vie-là. Elle est inéluctable. Il essaye de lutter. C'est un film noir à un moment. C'est un grand film noir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se débarrasser quand même des pièces à conviction. Il y a une scène chez les flics qui lui dit « Non ben, ça va, ta vache, elle a disparu, elle a traversé la frontière. »
Il paraît que c'est un classique, ça.
Il paraît que c'est un classique, voilà. Il dit « Bon, ben, c'est pas grave, tu l'as bouffé, tu vas nous donner quelques entrecôtes. » Donc, il y a constamment une façon d'utiliser le concret, le réel, le témoignage de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a croisé pour en faire un vrai sujet de scénario et de fiction extrêmement cohérent. Et on m'avait dit, c'est pas tellement mise en scène, je trouve que c'est remarquablement mise en scène, parce que c'est dans les gestes du concret et du quotidien que la mise en scène ne va jamais ailleurs, et que c'est là qu'elle doit être.
C'est donc, chapeau quand même, 32 ans, Hubert Charuel qui signe avec Petit Paysan son tout premier long-métrage. Des réactions sur ce film-là, non? Le prix du succès. Un film de Teddy Lucie Modeste, à qui on doit notamment Jimmy Rivière, co-scénarisé par Rebecca Zlotowski, avec une séduisante distribution, Tahar Rahim, Roche Dizem, Mai Wen, Grégoire Collin. Mais pour autant, pas de grande surprise à l'arrivée. L'histoire de Brahim, c'est Tahar Rahim, un humoriste de stand-up issu d'un quartier difficile, Bonjour Jamel, qui va payer le prix de son succès en se séparant de son frère et manager envahissant, Mourad Seroj Dizem. Je crois que c'est un de ses premiers rôles vraiment antipathiques. Enfin, ce frère dont les pratiques ne sont pas, comment dire, très orthodoxes. En même temps, pour être excitant, il aurait fallu que le film ne ressemble pas à une parabole. Or là, pour le coup, tu parlais de prévisible, mais là, du début à la fin, on sait exactement ce qui va se passer. J'étais un peu surpris par la presse très élogieuse qui accueille cette semaine ce film. Le prix du succès, Xavier?
Là, je te trouve sévère, je trouve que le film est quand même plus intéressant que cela. C'est vrai qu'on a très vite deviné que les rapports de force allaient...
C'est sûr qu'à côté de Ciel Rouge, c'est un chef-d'œuvre.
Oui, mais... je sais que tu as l'intention d'attaquer sur Ciel Rouge, mais je me défendrai. Néanmoins, il y a un vrai sujet qui était déjà commun au film précédent du réalisateur, c'est la communauté. Et c'est extrêmement intéressant parce que ces gens-là viennent de la communauté maghrébine, que c'est important dans le film, que ça n'est pas traité comme une anecdote ou comme un décor rapport au comme une simple référence à Jamel. Il y a une vraie idée de la fratrie, du frère, de la famille qui effectivement se repose non seulement sur celui qui a du succès, mais sur le fait aussi qu'il ait réussi à englober dans son équipe ce frère un peu plus, au destin plus compliqué, moins amène, on va dire. Donc je trouve que le poids de la famille et la manière dont cette histoire rejaillit aussi sur le cercle familial est extrêmement intéressante. C'est pas simplement un comique qui a du succès qui va se débarrasser d'un frère encombrant et qui va essayer de construire sa vie en s'affranchissant tout ça. C'est aussi la manière dont il est très compliqué justement d'en abandonner un tout en aimant encore les autres et en tout les soutenant financièrement. Et le film est beaucoup plus retors, beaucoup plus pervers. Il s'ouvre sur une scène où quelqu'un lui dit « Ah, tu me fais rire, t'es trop bien, fais-moi, signe-moi un autographe. » Et puis bon, il signe un autographe et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ben voilà, c'est aussi cette histoire dont on n'arrive pas à se débarrasser ni des fans encombrants, ni de la famille qui compte sur vous. Vous avez réussi, on a réussi. À quel moment sa réussite n'appartient qu'à soi et non pas à la famille? Je trouve que le film soulève des sujets extrêmement intéressants et... Non, franchement, je le trouve plus subtil et plus pervers que ça. Que ton résumé,
Nicolas.
Moi, je suis d'accord avec Xavier sur le, on va dire la première demi-heure. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que le film ne sait plus trop quoi raconter, qu'il se raccroche à cette histoire de conflit fraternel traité avec des ficelles énormes.
Mais non, parce que c'est le moment où la famille arrive.
Non, mais la famille, c'est très intéressant. Le rapport familial, justement, de cette famille qui se raccroche à ce fils un peu prodige, qui est le seul qui a du succès, mais il en fait pas grand chose, et surtout il y a un vrai problème de mise en scène et de mesure dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a droit à des ralentis quand Tahar Rahim sort de chez lui et de la demeure familiale parce qu'il vient de s'engueuler avec son frère, et là on a un ralenti, on se voit dans Scarface avec une musique grandiloquente. Enfin, il y a une espèce de vrai problème de mise en scène et de mesure de ce qu'on raconte et de ton, quoi. Et alors plus le film avance, moins il est intéressant, alors qu'il y avait un vrai sujet, comme tu l'as dit, sur la réussite. Cet univers du stand-up qui est rarement traité au cinéma.
Non, mais là, elle n'est pas vraiment racontée.
C'est une toile de fond qui n'est pas du tout incarnée.
Ah, mais c'est pas le sujet du film. Non, le sujet va vers l'amertume.
Et surtout, je pense que le film, c'est pas vraiment qu'elle est. Au bout d'un moment, c'est pas trop qu'elle est vraiment son sujet.
Moi aussi, quand même.
En tout cas, il le circonscrit à quelque chose qui est peut-être la partie les plus intéressantes, et avec, je trouve, avec une écriture qui se délite au fur et à mesure. Donc, moi, j'étais vraiment déçu, alors que j'étais au tout départ très disposé à me passionner pour le parcours de ce personnage.
Quoi. Sophie, tu as aimé?
Je trouve sévère. Je trouve que c'est un film qui a sans doute des défauts, qui s'éternise un peu, qui n'a pas le charme qu'avait Jimmy Rivière. Mais c'est un film. En plus, je l'ai vu une seconde fois et qu'il a gagné.
Tu l'as vu deux fois.
Oui, je l'ai vu deux fois. À trois mois de distance. Non, mais c'est un hasard. Hein. Bon. Et en le revoyant, j'ai trouvé que je l'ai plus aimé que la première fois. Parce que je trouve que d'abord, il s'attaque à un sujet qui, en effet, comme l'a dit Xavier, n'est pas facile. Hein, cette famille délétère, noire, comme ça, qui finalement retourne la réussite en dette. Ah bah oui, et finalement, en asservissement, quelque chose qui devrait être de l'ordre de la libération, ils en font un asservissement. Je trouve que c'est très bien vu. Je trouve qu'ils filment très bien le milieu du stand-up, parce que même si c'est pas le sujet du film principal, le peu qu'ils montrent de ça, il le montre extrêmement bien, notamment au cours d'une scène où je trouve que Tahar Rahim est vraiment très bon, parce qu'à la fois il est dans la tension intérieure en permanence à cause de son frère, et en même temps il est dans la désinvolture et la souplesse quand il doit faire du stand-up. Et je trouve que le rapport à l'argent est très bien filmé, la vulgarité de l'argent, c'est très très bien montré ça dans le film. Tout ça, alors la mise en scène, peut-être qu'il y a un peu trop de ralenti, je te l'accorde, mais il y a une gamme chromatique que moi je trouve très intéressante et qui est très saisissante quand on le revoit avec qui va du rouge.
Gamme chromatique, tu...
Ah ben je t'assure que c'est frappant et c'est très beau, parce que du coup ça structure le film, ça lui donne quelque chose d'assez tranché, ça lui donne quelque chose de très coloré, de tranché. Non, franchement, je trouve que le film est pas mal.
Jean-Marc?
En tout cas, le cinéaste a un rapport manifestement très intense à son sujet, qui était presque le même dans son premier film, sur la toxicité des liens familiaux, sur la manière dont c'est un frein à l'émancipation personnelle. Il a vraiment quelque chose à dire là-dessus, et c'est à nouveau assez intense. Mais je pense, un peu comme Nicolas, que le film est trop emballé, qu'il y a quelque chose d'effectivement grandiloquent dans la mise en scène. Et je pense que c'est une erreur d'avoir typé de manière aussi binaire les deux personnages de frères, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bon garçonnisme du personnage de Tahar Rahim qui finit par être un peu simpliste, et Roche disait entièrement du côté de la loose. Je pense que le film aurait gagné à creuser l'intériorité des personnages et par contre à calmer un peu la batterie de relance narrative avec la mort d'un personnage secondaire, avec pour booster le récit. Il se passe trop de choses, et on aurait mieux qu'il creuse davantage en profondeur plutôt que de se défausser sur des effets narratifs de relance scénaristique un peu mécanique.
Le prix du succès de Teddy Lucie Modeste. Allez, on va aller vite maintenant. Bonne pomme de Florence Quentin avec Catherine Deneuve
Et Gérard Depardieu, et la bonne pomme, c'est Gérard qui reprend un garage dans un village du Gâtinais, que connaît très bien le réalisateur Didier Lagarde, je parle du village, dont le maire est Guillaume de Tonquédec, et qui tombe voilà, sous le charme de l'aubergiste. Pourquoi tu me regardes bizarrement ?
Mais je ne te regarde pas bizarrement, je te regarde avec beaucoup de...
Barbara, c'est Catherine Deneuve. Alors, on peut peut-être juste dire aux fans du couple de Dernier Métro que... C'est pas la même chose. Enfin, on peut peut-être. Non, non, mais c'est juste pour les avertir.
Non, mais tu as raison.
Oui,
même les fans du couple de Potiche, pas le couple. Oui, c'est le couple sentimental de Potiche.
Beau, Potiche.
Voilà, donc c'est un peu différent, mais c'est surtout le Dernier Métro. Quoi. On est assez loin, quoi. On est assez loin. Xavier, tu l'as vu ?
Oui, ah bah oui, bien sûr, j'y suis allé, tu m'avais demandé. Bonne pomme.
En salle ou...
En salle, oui, bah, oui. Une salle pleine de jeunesse, je pense que l'âge moyen était autour de 83 ans. À vue de nez, comme ça.
À vue de nez, c'est élégant. 83 ans à vue de nez, non, mais tu sais.
Puis ça parle en plus, ça, je l'ai pas pour les filles. Tant mieux, ça m'a tenu un petit peu éveillé. La seule bonne idée. Parce que j'essaie d'être positif, moi, ce soir, quand même. C'est qu'ils ont un peu inversé les codes. C'est-à-dire que Gérard Depardieu est tout gentil, tout mielleux, il rend service, on lui dit de faire un truc, il l'accepte. Et Catherine Deneuve joue Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'elle boit, elle picole pendant tout le film, elle râle, elle crache, elle s'emporte contre tout le monde. Bon, à partir de là, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que ce soir, on a quand même cité les mots de prévisible, d'attendu. Alors là, mes enfants, qu'est-ce que vous allez avoir comme vocabulaire, comme rhétorique pour Bonne Pomme, où il ne se passe alors strictement rien. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi fade, aussi lisse, aussi inexistant en termes de scénario. Puis à la toute fin du film, que je ne raconterai pas parce que je suis bon camarade, et encore si je le faisais, vous me remercieriez, si, quand même 10 euros d'économie par les temps qui courent, c'est toujours ça. Les scénaristes, puisqu'il s'agit de Florence Quentin et de son fils, je présume, se disent « Oh, mais on n'a pas grand-chose pour finir, là, comment est-ce qu'on termine ?» Donc ils inventent une abracadabra. Oui, bref, histoire de go-fast, de voitures qui passent les frontières pour essayer de sortir les personnages de ce village qui ressemble à celui du prisonnier. On a l'impression qu'on peut jamais sortir de ce truc-là. Là, c'est anxiogène, beaucoup plus que dans Les Proies. Et on se dit, mon Dieu, mais Catherine, mais envoyez-nous un message, on va vous envoyer un chèque. On, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, quoi. On vous aime d'amour. Elle est formidable, elle joue toute seule. Mais vraiment toute seule. Ça, elle surjoue, du coup, elle a des inflexions et tout ça. On l'aime d'amour, évidemment, dès qu'elle bouge un bras, dès qu'elle bouge un cil. Mais non, mais moi, je lui envoie un chèque, je gagne pas beaucoup, mais non, mais je peux pas, quoi. Catherine, on vous aime. Non, la prochaine fois, envoyez-nous le scénario avant de signer.
Jean-Marc.
Enfin, le scénario. Envoyez-nous le post-it.
Jean-Marc.
Tu parlais de la fuite des personnages, et effectivement, on a l'impression que c'est aussi les acteurs, en fait, qui s'évadent à la fin. Et tout à coup, ils laissent tout derrière eux. Ils disent, on se fait la main. Il quitte un contexte extrêmement poussif avec un récit, on n'y comprend rien, c'est un peu
bio,
c'est très 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 ennuyeux. En même temps,
mais surtout,
comme tu le dis.
Ce qui est plus grave, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose, malgré tout, sédimenté sur 10 films qu'ils ont fait ensemble, qui reste fort. Il y a comme une électricité statique du cinéma qui se produit. C'est ça qui est beau. C'est statique et électrique. C'est-à-dire que même s'ils n'ont rien à jouer, il se produit quelque chose qui tient à l'histoire qu'on a avec eux depuis tout le temps, quoi. Qui fait que c'est un peu émouvant de les voir encore une fois, à ce moment-là de leur carrière, de leur vie, se retrouver.
Sophie, quelques mots.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a ça. Mais enfin, sinon, ça sent la recette à plein nez, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des stars, on les met dans des rôles qu'ils ont quand même déjà.
Je rappelle que c'est la scénariste de Châtelier et qu'elle connaît aussi le système qui consiste.
Des rôles qu'ils ont quand même déjà joué des milliards de fois. Quoi
qu'en
dise Xavier, ils inversent. Enfin, elle a déjà joué des grandes extravagantes, élégantes. Par parenthèse, qui vient de Paris, parce qu'évidemment, extravagante,
ça peut
pas être en province.
Elle s'est jamais biturée comme ça à l'écran, quand même.
Oui, bah dans le film précédent, là, elle bien sûr qu'elle
buvait énormément. La biture
énormément,
à la bière.
Catherine
Deneuve.
Elle a beaucoup bu.
À la Cronan, quand même, qu'elle décapsule là-plein dedans.
Et lui, d'ailleurs, c'est pas un enfant de cœur. Bon, enfin bref. Et puis alors surtout, la Douce France, et puis des bons acteurs autour, parce que et puis tout ça dans un scénario qui alors je trouve qu'il est très épais au contraire, moi, le scénario. Tu vois, il est à la fois il tient sur un post-it et en même temps, on a l'impression, enfin, il est pâteux, quoi. Hein. Enfin, il est vraiment très, très pâteux, quoi. Donc, tout ça est censé, j'imagine, être une.
Comme en plus,
c'est de la recette à tout point de vue.
Il y a ton Québec dans le film. Je pensais tout le temps, il allait leur dire aux deux, tu vois, fais pas ci, fais pas ça, quoi. Enfin, c'est le film à ne pas faire.
Il y a France
quoi.
2, parce qu'il y a aussi les petites blondines qui jouent la maîtresse du type qui tient la station, enfin, le garage.
Oui, le garage.
Qui joue dans les petits films d'Agatha Christie. Donc, il y a plein de vedettes aussi.
Ouais,
chacun, c'est vendredi soir.
Téléphage que toi.
Tu es sur le sang de la vigne, tu es sur les clients, on a gardé.
Nicolas.
Désolé, je ne l'ai pas vu. Bon, je suis bonne pomme.
Ça nous arrange parce qu'on a pris beaucoup de temps. Bonne pomme, Florence Quentin. Un mot très rapide de Ciel Rouge, le premier film d'Olivier Laurel, scénariste d'Indigène, d'Hommes armes à tuer, avec Cyril Descours et Audrey Giacomini. Un film lyrique, romantique sur la. Ce qui se déroule au Vietnam, c'est-à-dire dans l'Indochine de 46, Philippe, qui est un jeune appelé, qui est évidemment opposé à la torture, s'enfuit et se cache dans la jungle avec une jeune et forcément très jolie rebelle Viet Minh, qu'il était chargé de torturer, enfin, voire de tuer. Les paysages sont tournés en scope, ils sont magnifiques. Les poncifs se ramassent à la pelle. L'idylle, moi, ça m'a fait penser à la collection Harlequin, avec une scène, mais pour moi d'anthologie, c'est quand ils sont à poil tous les deux sur un radeau.
Et ils décident de
d'anthologie.
Oui,
je t'en prie, Nicolas.
Non, mais puis d'un coup, ils décident de se mettre nus et d'avoir une histoire d'amour qui n'a jamais été amorcée. À aucun moment, on se dit tiens, ils se créent une étincelle entre eux parce que le cinéaste est plus occupé à faire des plans d'arbres ou les plans qui s'associent dans des fondus assez approximatifs. Enfin, moi, le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'ai pas compris.
Nicolas, Xavier aime ça.
Oui, alors voilà. C'est-à-dire que Le film contextualise par un carton au début, nous sommes en 46, on se dit qu'on va être dans un film quelque chose de très stylisé, contemplatif, et puis on va être près de ces personnages, on va un peu ressentir à la fois la peur et cette espèce d'amour qui se crée. J'ai vu un cinéaste assez laborieux qui ne savait pas quoi faire de sa caméra, qui était embarrassé par ses acteurs, et puis alors des lignes de dialogue, on trahit toujours quelque chose quand on a le courage d'aller vers son destin. Bon, bah écoutez, j'y réfléchis depuis que j'ai vu le film.
Moi, je déteste pas le film. Effectivement, c'est vrai que c'est un film de scénariste reconnu, donc il a tout fait pour essayer de tenter de faire oublier qu'il était un scénariste et de privilégier la mise en scène. Je suis d'accord avec toi, le scénario est sommaire et de temps en temps, quelques phrases de dialogue tombent un petit peu de façon lourdaude. Mais je suis pas d'accord avec toi, je trouve que sur la mise en scène, sur la façon de capter la nature, sur la façon de replacer ses corps, ils ont le droit de se foutre à poil, ils sont mignons.
Non, mais
c'est quand même dingue, non, mais la morale.
La scène est ridicule.
Mais non, la scène n'est pas ridicule. Je trouve qu'il y a quelque mignon avec la nature. Il y a quelque chose qui se passe de très guttural. Et je trouve que.
Guttural.
Et je trouve que le film n'est pas lyrique. Le film est plus sec, il est plus épique, il est plus angoissé que ça. Et il est inégal, mais je vois vraiment pas quelle gloire il y a à taper dessus comme ça, avoir un raccourci. Et ils sont à poil et ils sont mignons.
On n'a pas beaucoup de temps. Et en plus, Sophie et Jean-Marc ne l'ont pas vu. Je vous comprends.
Oh, c'est bas.
Bah écoutez, si vous y allez,
Xavier vous rembourse. Écrivez-moi.
Voilà, Xavier vous rembourse. On termine avec Gabriel et la montagne, le film que consacre le Brésilien Felipe Barbosa à celui qui fut son copain au lycée de Rio, Gabriel Buchmann, qui est incarné d'ailleurs dans le film par Rao Pedro Zappa. Il était globetrotter, tendance altermondialiste. Il a disparu sur une montagne du Malawi en 2009. Il n'avait pas à peine 30 ans. Et ce film qui, d'ailleurs, pour le coup aussi, entre la fiction et le documentaire, en plus, il y a ceux qui ont connu Gabriel dans le film, qui interprètent leur propre rôle. Alors, rappellera peut-être à certains le Into the Wild de Sean Penn. Mais surtout, ça raconte ce parcours incroyable d'un étudiant en sciences éco qui voyageait surtout en Afrique à la rencontre des plus démunis. Film qui fait 2h07, il faut le savoir quand même. Assez étonnant. Je vous demande rapidement.
Oui, très rapidement.
Moi, je pense qu'il faut vraiment conseiller aux gens d'y aller.
C'est un film absolument magnifique. Hein, c'est vraiment le plus beau film de la soirée, c'est celui-là. Il est vraiment très, très beau. Parce qu'à la fois, c'est un récit de voyage, en même temps, une immersion de cette Afrique de l'Est, ça va du Kenya au Malawi en passant par la Zambie, la Tanzanie, etc. Lui, il veut surtout pas être pris pour un touriste, donc c'est un personnage extraordinaire en même temps, quoi. C'est un personnage à la fois une tête à claque et en même temps il est solaire, il est sympathique. Et ce qui est formidable dans le film, c'est que dès le début il est mort, on sait qu'il est mort, et donc c'est les 70 jours qui précèdent sa mort.
C'est la chronique d'une mort annoncée.
C'est la chronique de sa mort annoncée, donc on est captivé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et plus le film avance, plus il se charge de mystère, alors qu'il va vers l'éclaircissement normalement et finalement on est encore plus, c'est vraiment un film, mais mystérieux, c'est un film extraordinaire. En plus, il y a une chronique de couple aussi à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, sa petite amie le rejoint. Donc, c'est un film qui enchevêtre comme ça plein de choses. Vraiment, c'est superbe, c'est magnifique.
Jean-Marc.
Oui, c'est très beau, c'est comme du Herzog, mais en doux. en très suave. C'est vraiment l'histoire d'un personnage qui s'évapore dans un décor naturel. Et ce qui est très troublant dans le film, c'est qu'alors que le cinéaste avait un rapport d'amitié avec le personnage, en même temps, alors qu'on sent vraiment une émotion très profonde et qu'on est bouleversé quand même par l'itinéraire de ce jeune homme, il y a aussi une pointe de critique. Il y a quelque chose, un point de vanité quand même du personnage qui a cru qu'il pouvait se défaire de tout rapport colonial et qui n'y parvient pas. Et je trouve que la manière dont il fait exister très fortement le personnage tout en pointant un phénomène culturel qui le dépasse, c'est très beau.
Oui, il y a vraiment l'arrogance effectivement du petit blanc qui croit se fondre dans la culture et qui est ridicule quand on le voit habillé en tenue Maasai aller chercher sa copine à l'aéroport alors que tous les autres, les gens du cru, les autochtones sont en costume assez identique, moderne. Il y a à la fois une forme de mysticisme qui se crée aussi sans jamais que le film soit illuminé.
Il a des lubies autoritaires tout à coup qui le perdent d'ailleurs.
Et puis ils ont des dialogues entre eux en couple qui sont passionnants même sur le rapport entre effectivement les pays pauvres, les pays riches sur le rapport d'un étudiant brésilien qui vient d'une culture assez bourgeoise et qui découvre ces pays-là. C'est à la fois un film d'aventure et d'exotisme, en même temps une vraie quête intérieure et une fuite de soi. Je trouve que c'est un film vraiment passionnant qui a peut-être un chouïa trop long, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un des plus beaux films de la semaine et qu'il faut vraiment y aller.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord, j'ai presque rien à rajouter. On a eu plusieurs films ce soir sur le rapport entre le documentaire, le réel, le vécu et la fiction. C'est peut-être celui qui y arrive le mieux parce qu'il a une vraie idée. La mise en scène est vraiment.
Oui, la part documentaire dans le village du Gâtinais de Bonnepomme n'est pas, par exemple,
moins
phénoménal.
Ou alors c'est peut-être pas le documentaire, mais c'est vrai que la forme est pratiquement documentaire. À un moment, ils vont parler, le couple va parler dans un car et c'est filmé depuis l'extérieur, pratiquement en plan séquence. Enfin, il n'y a pas de découpage. Et en même temps, le personnage qui a existé, qui est un ami qu'il connaît, il en fait un personnage de fiction. D'abord parce qu'il est raconté par ceux qui l'ont croisé et ça, c'est bouleversant. Donc déjà, ils l'ont réinventé, y compris ceux avec lesquels il s'est engueulé à certains moments. Celui qui s'est demandé pendant 2 ans pourquoi il refusait son invitation sur Facebook. C'est rigolo de voir un Maasai dire j'étais sur Facebook, il me choisissait pas, j'étais très, très mécontent. Donc il y a ça. Et en même temps, il y a une vraie lucidité. C'est-à-dire qu'on découvre que le gamin, il n'a pas eu l'école américaine dont il rêvait. Il n'est pas à Harvard, il sera simplement à Los Angeles. Et donc il y a déjà aussi cette idée du pouvoir. C'est quand même quelqu'un qui a une ambition de vie et qui s'offre un voyage pour effectivement nourrir un tout petit peu sa connaissance du monde pauvre. Alors il a beaucoup d'empathie, il n'y a pas de cynisme du tout dans ce personnage-là. Mais à travers ça, le réalisateur, le scénariste fonctionne aussi, regarde un tout petit peu ce qu'est un petit blanc plutôt de bourgeois, plutôt de bon côté de la barrière, qui regarde effectivement un monde, un continent qui a beaucoup plus de difficultés. Je trouve le film, en plus, sur le plan politique, sur le plan colonial, comme l'a très bien dit Jean-Marc, extrêmement fin, extrêmement intelligent, jamais didactique, uniquement à travers le personnage, qui, encore une fois, est un personnage innocent, solaire, insolent et opaque. Il y a un mystère aussi chez lui qui sera jamais dévoilé et qui est fascinant.
Gabriel et la montagne, le film qu'on vous conseille tous, de Felipe Barbosa. Allez, un conseil rapidement pour terminer cette émission, Sophie.
Alors très rapidement, un film de Taylor Sheridan, Wind River,
qui est sorti
un western glacé, enneigé, film classique, un peu chargé sur les, mais qui est beau. Et très vite, Une famille syrienne qui sort dans 3 jours de Philippe Van Leleuve, je sais pas comment on prononce son nom, qui est un film qui se passe dans un huis clos qui est très beau.
Jean-Marc.
À la Cinémathèque française à Paris, la rétrospective Jacques Tourneur, un cinéaste français installé à Hollywood, dont on connaît surtout les chefs des années 40 comme La Féline, et dont il faut absolument voir aussi ces films tardifs de la fin des années 50 comme Nightfall ou Rendez-vous avec la peur, qui sont vraiment sublimes.
Et il y a un livre qui vient de sortir, je sais, sur Jacques Tourneur. Le conseil de Xavier.
Ville perdue, un moyen métrage de 50 minutes de Julien Gaspard Olivieri, c'est un film de famille. On en a beaucoup vu, mais néanmoins il se mesure très honnêtement avec ce genre, j'allais dire, extrêmement balisé. Et au milieu de cela, une actrice magnifique, extraordinaire, qu'on voit trop peu en tout cas dans un premier rôle, c'est Carole Franck et elle est juste impressionnante.
Et Nicolas ?
Moi c'est un Dino Rizzi qui n'est pas parmi les plus connus mais que je trouve très sympathique, qui s'appelle Le Veuf avec Alberto Sordi, qui est une comédie très très noire sur un type qui est marié avec la mauvaise femme et qui rêve qu'elle meure. Par chance ça arrive, et puis voilà, il y a un côté très Billy Wilder et une parodie un peu du film noir. Voilà, c'est très sympathique.
Tous ces conseils vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter .fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Jean-Marc Lalanne, Xavier Le Herpeur et Nicolas Chaler pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Charles Trenet, je les remercie, Olivier Dupré, Stéphane Touvenin et Nicolas Depagraf. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est vendredi prochain vendredi 8 septembre, ce sera à 20h à l'Opéra National de Nancy, à l'occasion du livre Sur la place, pour deux émissions, l'une qui sera consacrée au livre, l'autre au film. Dans une semaine, on parle donc de littérature depuis Nancy. D'ici là, je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.
Merci Jérôme Garcin. Je rappelle que toutes vos émissions sont réécoutables et podcastables sur le site de France Inter, www.franceinter.fr. À la page de l'émission Le masque et la plume.